Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, nous explorons le lien qui nous unit aux animaux, un lien singulier, ambivalent, des animaux que nous aimons, que nous choyons, mais qui peuvent également nous effrayer, que nous pouvons maltraiter. Nombre d'entre nous investissons notre amour, nos plus belles émotions avec eux, alors que d'autres font preuve de méchanceté ou de cruauté. Et puis il y a cette zone grise où nous choyons nos animaux dits de compagnie et dans le même temps, nous dégustons de la chair animale. Ce matin, le chercheur Laurent Beck-Chankland et la journaliste Yolaine Delabigne nous aident à mieux comprendre notre attachement et nos ambivalences face aux animaux, alors que nous oublions notre appartenance au règne animal. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie Perarnaud.
Bonjour Ali.
Des maternelles sur France 2. Quel est le menu de ma vie de parent ce matin?
Écoutez, hamster neurasthénique, chien ou chat tyrannique, on va parler des animaux de compagnie de la famille.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais à te promener sous la pluie au beau milieu de la nuit? Tu devrais dormir depuis longtemps, c'est un grand jour pour toi demain.
Maman, les cochons ça se mange?
Qui t'a dit ça?
C'est la chatte qui me l'a dit. Et il paraît que les cochons, ils servent à rien sauf à être mangés par les humains. C'est vrai?
C'est vrai. Pour la plupart des cochons, c'est vrai.
Le cochon babe qui craint de se faire manger par les humains. Bonjour Laurent Beck-Chankland.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes et membre de l'Institut universitaire de France, chercheur invité à l'université Stanford, et vous publiez chez Odile Jacob « Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences » avec une préface de Boris Cyrulnik. Bonjour Yolaine Delabigne.
Bonjour Ali.
Heureux de vous retrouver.
Vous
êtes fondatrice du site L'Animal et l'Homme. Vous êtes notre complice pour les émissions consacrées aux animaux. Dernier livre paru chez Le Duc, « Mon année zéro souffrance animale ». Que vous inspire cet extrait du film Babe que l'on vient d'entendre?
Ben je pleure. Je pleure avec lui car hélas c'est vrai et ça fait beaucoup de peine au petit garçon. Il a raison parce que c'est très triste.
Laurent Beg.
Oui, mais évidemment, c'est comme d'autres fictions qui finalement renvoient à une réalité parfois difficile, parfois ambivalente précisément.
Alors, Laurent Beg, au cours de l'histoire, les animaux étaient considérés comme des choses. Ils nous étaient étrangers, ils nous fascinaient par leurs différences.
Ils ont été nos dieux également. Ouais. Nous avons accordé aux animaux toutes sortes de statuts, les statuts les plus paradoxaux. Nos dieux, mais aussi nos aliments, nos matières. Donc je dirais du sabot jusqu'à la plume, de l'excrément jusqu'aux neurones. On a utilisé tout finalement dans les animaux. Et nous sommes l'espèce qui a le plus interagi avec les espèces animales. Donc effectivement, nous sommes un petit peu une espèce qui est très intéressée et fascinée par les animaux, mais avec une fascination qui parfois est très obscure, puisque celle-ci consiste à les utiliser.
Et aujourd'hui, dans notre pays, on ne considère plus les animaux comme des biens meubles.
Voilà, on a effectivement des évolutions législatives qui consistent à reconnaître leur sensibilité, mais en même temps, la manière dont ils sont traités et finalement la transcription de ces corpus législatifs en comportement ordinaire laisse à désirer, puisqu'effectivement, s'ils ne sont plus des biens meubles et s'ils sont doués de sensibilité, ça peut vouloir dire aussi qu'ils méritent des traitements qui tiennent compte de cela. Or, pour le moment, évidemment, on voit bien que ce n'est pas le cas. Nos relations avec eux sont à la fois des relations d'affection intense, mais aussi, effectivement, d'oubli de leur individualité, de leur animalité.
Yolaine Delabigne.
En effet, je pense que les animaux et la nature, d'une façon générale, c'est là où on retrouve, nous, les humains, le plus d'émotions. En fait, et surtout pour tout le temps. Parce que, par exemple, l'émotion que vous avez avec votre bébé, malheureusement, ça va passer. Un jour, ça va devenir un grand dadais, comme vous, comme moi. Bah bon. Et du coup, on sait que ça passe. Alors que l'animal, c'est toujours aussi beau, aussi élégant, aussi gracieux, comme un coucher de soleil, comme un arbre. Enfin, et du coup, on est fasciné par ça. Et malheureusement pour eux, ça provoque des espèces d'émotions très ambivalentes. Donc, on va sans doute en parler, mais je parlerai par exemple des jeux. comme c'est très joli et très sympathique, on joue avec eux. Donc on les met dans des cirques, on les met dans des arènes de corrida, on les met à combattre pour des combats de coqs ou des combats de chiens, etc. Et parce que tout ça, parce que justement ils sont courageux, ils sont rigolos, ils sont beaux, etc. Donc en fait ils ont pas de chance. Quelque part les animaux ils ont pas de chance. Et je reviens à ce que disait Laurent, ils sont plus des meubles dans la loi. Mais franchement, comme l'être humain a beaucoup de mal à évoluer. Contrairement à ce qu'on dit beaucoup, on dit souvent que les humains s'adaptent très vite. Moi, je suis pas d'accord du tout. Je pense que les animaux s'adaptent beaucoup plus que nous. Nous, on met des siècles pour accepter des évolutions. Je pense qu'on a encore du temps devant nous avant que les animaux soient réellement respectés comme des êtres vivants.
Laurent Beck-Champlande.
Oui, alors pour insister un peu sur ce côté très fascinant des animaux, dès le plus jeune âge, finalement, dès les premières heures, les animaux nous fascinent. Hein. Lorsqu'on montre, par exemple, des photographies d'animaux ou des photographies d'objets à des enfants et qu'on mesure l'activité cérébrale de ces enfants, on constate que dès 7 mois, les réseaux neuronaux activés sont différents. Si on montre à des enfants des configurations de lumière qui constituent des formes soit de poules, soit des formes aléatoires, on voit qu'ils sont plus intéressés par des poules. On a effectivement vraiment une sorte de câblage assez primitif qui fait que l'animal nous intéresse, nous captive, nous fascine.
Et les enfants racontent bien cette ambivalence face aux animaux parce que ils sont entourés de peluches, de dessins animés avec des animaux, etc. Et puis ces mêmes animaux qu'ils chérissent, ils peuvent également avoir évidemment des animaux dits de compagnie. Et dans le même temps, on mange des animaux. On mange de la chair animale.
C'est
et
ça.
Certains enfants sont troublés par cette ambivalence.
Oui, d'ailleurs, si vous regardez quels sont les animaux que les enfants étreignent, eh bien, curieusement, et ça a été fait par les chercheurs, hein, tout a été fait par les chercheurs finalement, eh bien, il y a beaucoup moins de cochons qu'on étreint que de lapins. Très peu de poissons, d'ailleurs. On a effectivement aussi des choix ludiques qui finalement sont concordants avec nos choix alimentaires, en quelque sorte.
Alors nous nous projetons de plus en plus dans nos animaux, du moins dans les animaux qui nous ressemblent le plus. Nous n'avons pas la même empathie pour un chien ou un chat, un chimpanzé, qu'avec un cabillaud ou une araignée.
Voilà, ça c'est captivant, c'est qu'il y a effectivement plusieurs raisons qui font que nous avons de l'intérêt, de l'attention et de la considération pour certains au détriment d'autres éventuellement. Par exemple, une très belle étude qui a été menée par des chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris a consisté à présenter à des personnes des paires d'animaux, donc par exemple une vache et une éponge, ou bien un lapin et un renard, en leur demandant si vous deviez ne sauver que l'un d'entre eux, lequel choisiriez-vous ? Et on a également mesuré leur empathie vis-à-vis de ces animaux. Et ce qui est ressorti, c'est que plus les espèces sont proches évolutionnairement de la nôtre, plus le point de divergence finalement est proche, plus l'empathie que nous éprouvons pour eux est élevée. Donc on aura plus d'empathie pour un primate, bien sûr, que pour une étoile de mer. Ce qui ressort également des recherches, c'est que si on présente à des personnes des animaux maltraités, des vidéos par exemple, et qu'on mesure leur stress par des indicateurs physiologiques, par exemple l'humidité de la peau, on constate que nous sommes beaucoup plus stressés lorsqu'on voit maltraiter un chien plutôt qu'un faisan. Voilà. Et donc la première raison, c'est finalement la distance évolutionnaire. Et la seconde, qui se surimprime à la première, c'est finalement les définition culturelle de qui a droit à l'empathie. Est-ce que finalement, et c'est, là on voit bien qu'évidemment, on sait qu'aujourd'hui les cochons et les chiens ont des capacités cognitives émotionnelles qui sont comparables et pourtant, clairement, il vaut mieux être en France, en tout cas, un chien qu'un cochon. Pas forcément, il y a des pays où c'est l'inverse.
Mais selon les cultures, la vache sera sacrée, là-bas ce sera plutôt le chien et inversement.
Bien sûr, en France, on a consommé du chien jusqu'au 19e siècle d'ailleurs. Le chat, c'était finalement une divinité vénérée par tous en Égypte. Et puis ensuite, en France, on l'a maltraité durant nos fêtes médiévales, on les a brûlés, on a fait le commerce de leur pelage. Et aujourd'hui, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en aliments pour chats. Donc on a des évolutions historiques très importantes, des variations interculturelles très massives. Et puis le troisième facteur qui explique l'empathie, c'est finalement des traits individuels. Par exemple, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux animaux que les hommes. Alors, il y a beaucoup d'explications possibles. On peut rentrer dans ce débat, c'est un débat fascinant. Là, on peut expliquer cela déjà descriptivement dans l'histoire de l'opposition à la maltraitance animale. Dans les manifestations de rue, ça a été comptabilisé, les femmes sont beaucoup plus présentes que les hommes. Les grandes leaders, finalement, d'opposition à la maltraitance animale ont très souvent été les femmes. Et puis, lorsqu'on fait des recherches sur les causes de la cruauté envers les animaux, des grandes enquêtes, j'en ai fait une, par exemple, auprès de 12 500 adolescents, en France, et très nettement, les garçons, beaucoup plus que les filles, sont auteurs d'actes de cruauté envers les animaux. Alors que si vous regardez, bon, il y a beaucoup d'autres indicateurs qui le qui en témoignent. Par exemple, une expérimentation que j'ai faite aussi dans un laboratoire où des gens devaient, on en reparlera peut-être, tuer un animal, voilà, pour la science. Et là aussi, les femmes sont plus réticentes que les hommes. Alors pourquoi ? Alors c'est évidemment un sujet assez épineux, assez même inflammable, hein, puisque on pourrait être rapidement enclin à essentialiser des différences qui sont prescrites par la culture. Mais ce que l'on peut dire, c'est que même chez les autres animaux, les femelles sont plus sensibles que les mâles à la, je dirais, à, au bien-être d'autrui. On a beaucoup de travaux. On a un papier qui va sortir et qui a été coécrit par la, avec la primatologue Shelley Massey du Muséum national d'histoire naturelle, qui sortira cette semaine. Justement, on essaie de faire un peu le point sur la, les différences d'empathie entre chez les humains, mais également chez les animaux, entre mâles et femelles. Et on constate qu'il y a une relative grande tendance, finalement, à retrouver ces différences. Par exemple, des souris qui entendent des cris de détresse sont beaucoup plus, se tortillent plus si c'est des femelles que des mâles. Les corbeaux femelles, eh bien, partagent plus la nourriture. On a beaucoup, beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là. Et donc, on peut penser que l'une des raisons, mais pas la seule, l'une des raisons, c'est qu'il y a effectivement des dispositions évolutionnaires qui portent les femelles à être plus sensibles, finalement, je dirais, au bien-être d'autrui en général. C'est probablement lié en partie, évidemment, à leur fonction d'accompagnement des jeunes. Et même si on peut observer des hommes plus empathiques que les femmes et qu'il y a une grande plasticité dans tout cela, il y a quand même une tendance fondamentale qui semble porter les femmes à être plus sensibles, encore une fois, à éviter la douleur que l'autre pourrait éprouver.
Yolaine Delabie.
Alors, je rajouterais à tout ce que dit Laurent, avec lequel, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Quand on parlait de manger les animaux, je rappelle quand même qu'il y a eu des grandes civilisations où on ne les mangeait pas, hein, notamment la civilisation égyptienne. On a découvert il n'y a pas très longtemps qu'elle était végétarienne, ils mangeaient du poisson très, très rarement pour des fêtes. Et c'était des gens plutôt intelligents. Et je rappellerai ceux qui ont des grands génies, hein, comme... Léonard de Vinci, qui était végétarien. J'aurais le dire parce qu'on est dans une époque très obsédée par la viande, mais c'est quand même un phénomène nouveau avec l'industrialisation de la viande qu'on appelle même du minerai. On n'appelle même pas ça de la viande aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour revenir sur ce que vous disiez sur les enfants, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui militent pour que, dès la maternelle, il y ait des cours sur les animaux, la nature, etc. Parce que, pour moi, le vrai problème, c'est un problème de connaissance. On a une méconnaissance de l'animal comme autrefois on avait une méconnaissance des femmes, des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau que nous, des étrangers. Je rappelle qu'Éric Baratet, que vous aviez déjà reçu ici plusieurs fois, nous disait que il n'y a pas si longtemps, on disait que les Noirs ne voyaient que trois couleurs. Et c'est très intéressant, il parle beaucoup de la vision. Aujourd'hui encore, on vous dit que les chevaux voient pas bien, que les chiens voient en noir et blanc. C'est faux en fait. La plupart des animaux ont une vision bien meilleure que la nôtre. D'ailleurs, l'humain n'est finalement pas très doué dans beaucoup de choses. On n'a pas une super vision, on n'a pas un super odorat, on n'a pas un grand sens de l'orientation, on n'a pas tellement le sens de notre corps, à part quelques grands footballeurs, par rapport à beaucoup d'animaux, etc. Donc on n'est pas si doué que ça et on manque de connaissances là-dessus. Et puis dernière chose où je reprendrai sur les femmes, Valérie Chansigaud, autre historienne, c'est très intéressant parce qu'elle a montré que les Anglais, les Anglo-Saxons d'une façon générale, sont beaucoup plus avancés que nous et c'est parallèle au féminisme. Et en fait, ils ont des associations de bien-être animal, enfin de défense de l'animal, beaucoup plus prégnantes que les nôtres, beaucoup plus puissantes, etc. Et c'est parallèle dans l'histoire, depuis la fin du 18e, à la montée du féminisme. Et elle explique qu'en fait, en France, les femmes ont beaucoup de mal à s'imposer en politique. On voit bien, hein, on a encore avec des hommes politiques qui disent « Oh, t'es en jupe, t'es jolie chérie », etc. Enfin, des trucs hallucinants quand même, qui n'arrivent pas dans les pays anglo-saxons. Et c'est parallèle à la défense animaux. Donc c'est intéressant, je trouve, quand même.
Et vous acquiescez, Laurent Beck-Changlan?
Oui, effectivement, les grands leaders, finalement, d'opposition à la maltraitance animale étaient également très engagés dans ces combats-là. Où il y a vraiment une sorte de lutte contre l'anti-égalitarisme.
Exactement.
Qui va se retrouver, finalement. Et d'ailleurs, dans nos études, on montre bien que les facteurs qui prédisent le soutien aux inégalités fortes entre les catégories sociales sont les mêmes qui interviennent dans le soutien à une vision très coupée, finalement, où les animaux et les humains sont très différents et fondamentalement différent.
Et dans votre livre, c'est intéressant, excusez-moi, mais vous faites le parallèle entre le mépris qu'on a pour les animaux et celui pour les migrants. C'est hyper intéressant, ça vous citez des études qui montrent que vraiment c'est très lié. C'est quand même dingue, quoi. Donc c'est vraiment une méconnaissance de l'autre, en fait.
Alors pendant des siècles, nous avons refusé de voir les choses en face. Hein. Nous sommes également des animaux. L'humain est l'animal qui prétend ne pas en être un, Laurent Bègue.
Oui, alors on a évidemment ce narcissisme fondamental qui fait que nous nous plaçons au cœur de l'univers. et nos idéologies, nos croyances, nos monothéismes notamment, ont très largement contribué finalement à sacraliser cette césure qui fait de nous des êtres à part. Et même après Darwin, qui nous a fait comprendre que nous faisions partie finalement d'un monde animal.
En 1859, avec voilà. Son célèbre livre de l'origine des espèces, publié en 1859.
C'est ça. Eh bien, nous avons encore, finalement, nous avons dans nos têtes l'idée d'une évolution, mais en fait, on a du mal à penser qu'elle n'est pas linéaire, qu'on n'est pas l'aboutissement de l'évolution, que l'évolution, c'est un buisson. Et nous sommes effectivement une espèce certainement digne d'intérêt, mais qui surtout se considère comme le cœur de la Terre et le cœur du monde.
Darwin, qui a fait scandale hein, en 1871, écrit qu'il n'existe aucune différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs pour ce qui est de leur faculté mentale.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois Darwin reconnaît que nous sommes de la même patte, en quelque sorte, que nous sommes effectivement, qu'il y a une continuité fondamentale. Et en même temps, Darwin a aussi finalement utilisé les animaux pour sa propre connaissance. Il en a tué beaucoup pour effectivement connaître scientifiquement. Et c'est là qu'on voit bien qu'il y a, je dirais, une tension entre la pulsion ou la recherche de connaissances, certains parlent de pulsion épistémophilique, et effectivement la reconnaissance d'autrui. Et tout est finalement comme dans une tension assez fascinante.
Et plus tard, la recherche scientifique nous a appris que notre génome et celui du chimpanzé et du bonobo se superposaient quasiment entièrement, ADN commun à 98,5%, c'est ça ?
C'est ça. Et donc aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous sommes conscients de nos proximités biologiques et plus que jamais, nous tuons chaque jour des milliards d'animaux.
Nos cultures ont donc réservé une place variable hein, aux animaux sur un piédestal quand ils sont déifiés ou dans notre assiette pour assurer notre subsistance. Nous devons résoudre cette équation. Pourquoi mettons-nous sur un piédestal certains animaux comme nos chiens, nos chats, nos chevaux ? Et pourquoi nous mangeons certains animaux en oubliant bien souvent leurs conditions d'abattage ?
C'est ça. Alors c'est une grande
ambivalence que nous avons parfois du mal à résoudre.
Bien sûr, comme le disait dans sa petite chanson Alain Souchon, les vaches qu'on aime, on les mange quand même. Hein, et donc effectivement, on est dans une sorte de tension,
dissonance cognitive.
Voilà, certains. Et alors on peut la décliner. Finalement, certains appellent ça le paradoxe de la viande. Hein. Il y a un chercheur australien qui a développé beaucoup de travaux là-dessus et qui montre que lorsque nous prenons conscience finalement de cette continuité et de cette incohérence, eh bien, nous avons besoin de restaurer le besoin de cohérence. Par exemple, une étude assez illustrative de ce phénomène a été réalisée, qui consistait à faire consommer à des individus soit des morceaux de bœuf séché pour certains, et d'autres consommer des noix de cajou. Voilà. Donc ensuite, on leur demandait d'évaluer les aspects gustatifs, et puis également, dans un questionnaire qui était proposé après, d'évaluer les capacités cognitives et émotionnelles de différentes espèces animales. Et ce qui est ressorti, c'est que ceux qui venaient de consommer de la vache, eh bien, minimisaient les capacités émotionnelles des animaux. Alors on a reproduit ces résultats avec un de mes doctorants, Kevin Vézirian, dans le cadre du laboratoire. On a présenté une souris, je dirais, sauvage, ou bien une souris de laboratoire, en demandant aux personnes, en leur disant qu'elle allait souffrir et mourir, ou bien au contraire qu'elle allait continuer à vivre à l'extérieur, quelles étaient les capacités qu'on lui imputait. Eh bien, dès que l'on comprend que la souris va mourir et être utilisée pour la recherche, eh bien, une sorte de minimisation, comme si on avait besoin de penser que ce que nous tuons, c'est finalement un objet.
Et nous verrons tout à l'heure les stratégies développées pour résoudre cet inconfort cognitif quand nous mangeons des animaux. Mais je vais tout de même me faire l'avocat du diable. Les lions mangent bien des zèbres. Pourquoi l'animal humain ne pourrait-il pas déguster une entrecôte de bœuf en toute bonne conscience ?
Alors c'est évidemment un argument qui peut être évoqué, mais très vite on voit qu'il est limité puisque il semble difficile de justifier un comportement par l'existant, de même que l'on conteste aujourd'hui la possibilité que les plus forts écrasent les plus faibles et que l'on met en place des systèmes justement de stimulation de l'empathie et du respect d'autrui. Je crois que ces évolutions-là ont de l'intérêt.
Yolaine de Labine.
Oui, et puis moi je repartirais toujours sur l'industrialisation, c'est-à-dire que quand autrefois les êtres humains mangeaient un peu de viande, comme ça a été pendant des siècles, hein, je le rappelle, à part quelques riches, les gens, même nos chiens étaient végétariens, hein, ils mangeaient pas de viande tous les jours, hein, il y en avait pas. Et les gens allaient très bien. Hein, bon, alors qu'aujourd'hui le problème, c'est qu'on a une industrie qui a, par du marketing, par des méthodes, très très bien géré les affaires, c'est-à-dire qu'on a mis tout ce qui fait fait du mal loin, loin du regard. Donc il se passe des choses épouvantables dans les stabulations, dans les abattoirs, et ça personne ne le sait. Et on a même récemment fait une cellule d'émetteurs pour éviter d'aller faire des enquêtes là-dessus. Et donc du coup les gens en fait se rendent pas très très bien compte. Les gens, on leur met des pubs où on voit des petits agneaux qui courent dans les prés, qui sont tout contents. Donc en fait les gens se posent pas de questions parce que une fois de plus c'est un problème de méconnaissance. Mais si les gens savaient réellement ce qui se passait, s'il y avait des journées portes ouvertes dans les stabulations, je peux vous assurer que la moitié de la France serait végétarienne. Moi, j'en suis persuadé.
Ça va même plus loin, puisqu'il existe des stratégies marketing qui s'appellent la suicide food, l'idée que finalement, l'animal désire être consommé.
Oui.
Non, mais ça paraît idiot, mais en réalité, c'est très courant. Ouvrez les yeux, regardez, finalement, la plupart du temps, lorsqu'on voit des animaux sur des produits de consommation, ils sont joviaux, souriants, ils nous implorent de les consommer. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant pour le consommateur que de faire plaisir à un petit agneau?
Et puis je pense qu'après la guerre, on a quand même eu cette fameuse histoire après la guerre où on nous a persuadé que manger de la viande c'était devenir fort, et on est tous très empreints de ça. Vous avez encore des médecins qui régulièrement vous disent « Oh là là, mais il faut manger de la viande tous les jours si vous voulez être en bonne santé ».
De moins en moins faux. Tout de même, faut être honnête.
De moins en moins, c'est vrai, mais en plus c'est faux. On sait très bien que c'est pas parce que vous mangez de la viande que vous êtes en meilleure santé,
oui,
au contraire.
Oui, le programme national Nutrition Santé a récemment fait le point sur le sujet, et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut affirmer que la viande est indispensable à la santé.
En tout cas, tous les jours.
Oui.
Tiens, j'aimerais citer cette phrase de Kundera que j'ai trouvée dans votre livre, issue de l'insoutenable légèreté de l'être. Le véritable test moral de l'humanité, ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux.
C'est ça, finalement, les êtres les plus faibles, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, nous avons évidemment une domination avérée sur eux. Ça n'a pas toujours été le cas. On a effectivement des travaux historiques assez poignants qui nous montrent que nous avons parfois été plus chassés par eux que l'inverse. Aujourd'hui, effectivement, ils sont à notre merci. Et notre dignité, finalement, peut-être peut se traduire par la façon dont on va les approcher et les considérer.
N'hésitez pas à réagir à notre conversation au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Dans un instant, on continue à explorer ce lien complexe qui nous unit aux animaux. Ce sera juste après Gilberto Gil, Toda Menina Baiana, à 10h27.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus deu, Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também que Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também que Deus deu. Primeiro pelourinho também, Deus deu.
Christo Gil, Toda Menina Bayana.
Didier, maintenant Jean-Pierre, c'est papa.
Grand bien vous fasse.
Tu t'embêtes pas, tu es sûr, tu me dirais.
Mais bien sûr, je te le dirai, ça rentre pas du tout. Tiens.
Bon chien, bon, gentil chien. Le dernier truc dont j'avais besoin en ce moment.
Allez, viens, mais qu'est-ce qu'il y a, mais con ce chien là.
Sur France Inter.
Et ce matin, nous explorons ce lien ambivalent qui nous unit aux animaux en compagnie de la journaliste Yolaine Delabigne et du professeur en psychologie sociale Laurent Beg-Chankland. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser des messages sur l'appli France Inter. Cet auditeur qui nous dit, notez que comme Descola, Philippe Descola l'explique, la séparation de l'homme avec le reste de la nature est fondamentalement occidentale. Cette séparation n'existe pas dans les cultures non occidentalisées. Est-ce une source de cette ambivalence ? Laurent Beck, est-ce que vous répondez à cet auditeur ou auditrice ?
Dans toutes les cultures, l'être humain se différencie des autres animaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment une constante anthropologique, mais qui est plus ou moins marquée. Alors, selon le primatologue Franz De Waal, cette césure-là, elle serait plus forte justement dans les cultures qui sont exposées à des êtres animaux anthropomorphes comme les primates. Par exemple, en Asie, on voit plus souvent des primates. À Singapour, on en voit par exemple deux par heure, effectivement, des primates. Et donc, il est plus difficile évidemment de se considérer comme différent, très différent. Donc peut-être que cette césure-là, elle a été modulée par les cultures et par la nature des animaux auxquels nous avons été exposés.
Je vous propose d'écouter la primatologue Jane Goodall qui évoque son affection pour la chimpanzée Wunda qu'elle a accompagnée lors de sa remise en liberté dans la forêt après l'avoir soignée et recueillie.
Je n'avais jamais rencontré Wunda. Je lui ai parlé sur le bateau. Elle devait se demander ce qui lui arrivait.
Dans ces situations, les animaux recherchent la proximité des personnes qu'ils connaissent. Comme pour dire, j'ai peur, mais tu es avec moi. Ce qui s'est passé ce jour-là est extraordinaire.
Elle regarde autour d'elle, me fixe et me serre tendrement dans ses bras. Ça a duré tellement longtemps. Je dirais 5 minutes, mais ça n'a probablement duré qu'une minute. C'est exceptionnel, parce qu'elle ne me connaissait pas avant. C'est merveilleux d'être aussi proche d'un chimpanzé et de se sentir autant lié. C'est un grand bonheur pour moi.
Extrait du documentaire Jane Goodall au secours des chimpanzés du Congo de Debbie Inigan est diffusé sur Arte. Laurent Beg-Chankland, peu à peu nous prenons conscience que nos émotions humaines sont similaires à celles des animaux, ou en tout cas de certains animaux, comme les primates.
Oui, mais je dirais, finalement, la continuité biologique qui caractérise nos relations nous oblige évidemment à constater ces proximités.
Et cela modifie rapport avec eux.
C'est ça. Alors, ces recherches assez fascinantes, justement, où on amène un chien et un humain à se regarder dans les yeux, elles sont assez troublantes. Elles montrent que finalement, il y a des mécanismes physiologiques qui se ressemblent. Il y a une sécrétion d'ocytocine chez le chien et chez l'humain. On a également des travaux qui vont montrer l'accordage de l'activité cardiaque. Donc tout cela suggère que nous sommes en mesure de communiquer, d'être en résonance affective avec les animaux. Et d'ailleurs, ceux qui vivent avec des animaux au quotidien le savent intimement.
Qu'est-ce que ça change de savoir qu'un animal est doué d'émotions ?
Alors, bien sûr, si on lui attribue une vie intérieure, il est très difficile de lui nier la considération. Et donc, plus on va considérer que sa vie intérieure est riche, plus il ne sera difficile de le maltraiter, de le négliger, de le minéraliser, comme on le fait parfois, finalement. Et à l'inverse, dès que nous souhaitons en faire des choses, eh bien, nous leur dénions toute capacité cognitive et émotionnelle.
Et qu'est-ce que ça change de savoir que certains animaux sont dotés d'une grande intelligence ?
Alors je crois, et ça, Yolaine Delabigne est très bien placée pour le dire, mais l'intelligence, c'est un terme qui doit être mis au pluriel. Et justement, la première étape que nous devons franchir pour avoir de la considération pour les animaux, c'est d'accepter l'idée que les intelligences sont multiples.
Ça change Violaine tout. De Labigne.
Pour moi, ça change tout. C'est pour ça que moi, je me bats depuis 6-7 ans sur ce terrain-là. Parce que, en effet, dès que vous voyez qu'un animal est intelligent, vous ne pouvez plus le traiter. Et c'est d'ailleurs tout le combat depuis des siècles des religions, des politiques, des industriels, de nous expliquer toujours que les animaux sont sales, bêtes. On l'a vu dans l'extrait. Oh, il est con, ce chien, tout de suite. Alors qu'en fait, justement, on se rend compte que c'est faux. Et que les vaches, par exemple, il y a toute une vie sociale. Elles sont joyeuses, elles se lèchent. Il y a des amis, il y a des filles, il y en a qui s'entendent pas. Les poules qui sont a priori très méprisées, on mange beaucoup de poulet. Les poules, il y a rien de plus rigolo, quoi. Ils savent compter dès la naissance. Vous voyez, par exemple, quelque chose que j'ai appris il y a pas très longtemps. Le poussin, dans l'œuf, il communique avec ses parents. Avec sa mère, et il y a beaucoup de poussins dans l'œuf d'oiseaux qui communiquent, et il est capable de faire comprendre à la poule qu'il faut le retourner parce qu'il manque de vitamine D. Enfin, c'est dingue quand même, nous, excusez-moi, mais aucun bébé dans le fœtus. Voilà, les diamants mandarins, c'est Nicolas Madvon qui me racontait ça, qui est spécialiste dans la biocommunication. Les parents sont capables en cas de sécheresse, d'envoyer ce qu'on appelle des cris de sécheresse pour dire à leurs petits, essayez d'éclore un peu plus tard parce que là, ça va être dur, il fait très très chaud. Donc, dès que vous apprenez que des animaux méprisés, des animaux que vous connaissez pas, sont aussi intelligents, voire plus, dans certains domaines que vous, bah forcément, vous n'avez pas la même façon de les voir. Et puis, je trouve que ça apporte de la tolérance. Comme disait Laurent, il y a plein d'intelligences. En fait, chacun d'entre nous est intelligent. Vous avez des intelligences intellectuelles, des intelligences émotionnelles, des intelligences du corps, des intelligences musicales, etc. Chez les animaux, c'est pareil. Et je me souviens d'un scientifique qui m'avait dit... Mais à mon avis, si les chauves-souris, elles voient des humains, elles doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il est bête, celui-là, il est même pas capable de se balader le soir, il se cogne partout dès qu'il fait nuit, etc. Parce que la chauve-souris que nous méprisons et que nous trouvons moche, elle a des intelligences incroyables dans sa façon, par exemple, de se situer dans le. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ça vous rend très tolérant et ça vous apprend à aimer la vie tout court, en fait. Ce que Darwin avait dit, dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence.
Il y a une idée, je pense, intéressante, c'est que finalement, la façon dont on conçoit les capacités des vivants, ça peut être effectivement des animaux, ça peut être nos confrères humains. Finalement, comment est-ce qu'on va juger, apprécier des personnes à l'aune de capacités que nous valorisons? Et je pense que les animaux peuvent nous aider justement à hiérarchiser autrement ou à renoncer à ces hiérarchies très rigides que nous avons fixées. L'intelligence mesurée par un test du QI, voilà, qui finalement serait un peu l'étalon or, et puis tout le reste sur la seconde. Non, je crois que c'est évidemment une bonne façon d'envoyer tout cela valser que de regarder les animaux.
Alors, on l'a bien compris, on entretient des relations émotionnelles très fortes avec les animaux, et en particulier avec les animaux dits de compagnie, nos chats, nos chiens. Faire souffrir nos animaux dits de compagnie, c'est intolérable pour la plupart d'entre nous, mais nous sommes en général nettement moins préoccupés par la souffrance d'une mouche ou d'un cabillaud.
Bien sûr, et j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des différences de perception qui sont liées à des paramètres très superficiels, la taille, par exemple, des animaux, qui fait que les plus grands sont plus considérables, évidemment, plus faciles à percevoir. Nous sommes très, très liés à nos sens.
Nous considérons, par exemple, davantage les animaux en fonction de la vitesse à laquelle ils se déplacent. On va davantage considérer les animaux qui se déplacent à peu près à notre vitesse.
C'est ça, c'est intéressant.
C'est dingue,
de voir
ça vient d'où, voilà, cette étude?
Une étude qui a consisté effectivement à mesurer la perception que les personnes avaient des animaux et de leur intérêt, de leur attractivité, de leur valeur, et on leur présentait différents types d'animaux qui avaient des vitesses de location très très variables, et clairement il ressort que des animaux qui vont trop vite ou pas assez sont perçus comme moins intelligents, comme moins intéressants.
Pardon. Des exemples.
Voilà, effectivement, ça peut être des certains types d'oiseaux, qui étaient présentés, ou bien certains insectes. Et donc, on voit bien là que tout ce qui fait que l'on peut percevoir une proximité, une similarité avec des animaux, mais ça peut être également, encore une fois, avec d'autres humains. On connaît trop, je dirais, encore une fois, ces paramètres-là qui s'appliquent. Et je pense que l'une des règles, l'un des apprentissages qu'on peut faire de ces travaux, c'est que justement, la façon dont on traite les animaux et les autres humains différents n'est pas si différente. Et je pense que reconsidérer les animaux, c'est aussi repenser notre rapport à la différence et à l'altérité.
Alors, plus, si je vous comprends bien, plus on est capable de se projeter dans certains animaux, plus notre respect pour eux va augmenter, c'est ça ? C'est une forme d'anthropomorphisme ?
Alors, il y a d'abord, la première chose qu'on peut signaler, c'est que dès que l'on souhaite avilir, dévaloriser, supprimer la dignité de quelqu'un, on va aujourd'hui l'animaliser. Encore récemment, Poutine parlait des moucherons hein, qu'il fallait écraser, ou avaler, je ne sais plus. On a évidemment toute une bestialisation dans l'histoire des génocides et des violences, des étrangers, des ennemis, qui montrent bien que la figure de l'infamie, ça a été l'animal. Mais finalement, ce topos-là, cette rhétorique-là, on peut très bien la contester. Et il a été montré par ailleurs que si l'on amène des individus à reconsidérer les animaux, à percevoir leur intérêt, à percevoir leur capacité, eh bien, et qu'on mesure ensuite la perception que les gens ont des étrangers, eh bien, les perceptions vont changer. Donc finalement, c'est comme si l'animal était devenu une sorte de réservoir à avilissement, et que si on neutralise ce renvoi à l'animal, ça peut aussi se répercuter sur d'autres identités.
Et vous l'expliquez très bien dans le numéro de Cerveau et Psycho, notre cerveau est-il raciste ? On a évoqué votre papier justement hier dans cette émission. Alors, nous aimons nos animaux, nos animaux dits de compagnie, mais les animaux peuvent également provoquer des émotions désagréables, ambivalence de ce rapport avec les animaux, des animaux qui peuvent nous menacer, nous faire peur, Laurent...
Oui, alors, bien sûr, il y a des violences qui sont commises envers nos proches, et les animaux en font partie, et en tout cas parfois. Et donc, ces violences-là, on peut l'expliquer par différents mécanismes. Il y a des mécanismes qui relèvent de la psychopathologie, hein, effectivement, donc des problèmes psychologiques qui vont s'appliquer à la fois aux humains et aux animaux. Et beaucoup de travaux que je cite dans mon livre, justement, portent sur, par exemple, la psychopathie, les cruautés envers les animaux et le sadisme, les tueurs en série. Enfin, il y a toute une recherche là-dessus. Il y a 96 études qui ont été publiées dans une synthèse générale sur le sujet qui montrent que la plupart du temps, quelqu'un qui est violent avec des humains l'est avec les animaux et vice-versa. Voilà. Donc, après, eh bien, chez les personnes plus ordinaires, comme vous et moi, qui sont parfois amenées à être violentes avec les animaux, ça peut être lié à un besoin de les contrôler, c'est-à-dire essayer de leur faire faire ce qu'on attend d'eux. Ça peut être un châtiment, on est puni parce qu'ils ont par exemple mangé une chaussure. Ça peut être un déplacement d'agression, c'est-à-dire on va être frustré par son patron et on va finalement brutaliser l'animal. Ça peut être une utilisation agressive dans des combats, il y a des combats effectivement d'animaux dans le monde qui sont encore commis aujourd'hui.
Et là j'évoquais les animaux qui nous menacent, qui nous font peur pour diverses raisons.
Oui, alors il y a effectivement, de nombreux animaux qui en fait sont en situation de concurrence, c'est-à-dire des concurrences alimentaires, les fameuses plaies d'Égypte. Hein, c'est cette idée effectivement que l'on va vouloir exterminer les sauterelles ou les grenouilles ou les charançons de nos charpentes, ou les rats ou les souris, parce que on a l'impression qu'ils nous menacent. Et donc il faut bien sûr réaliser que nous avons très longtemps été en conflit avec eux pour des ressources alimentaires. Ce n'est plus le cas vraiment aujourd'hui dans la plupart de nos pays, mais effectivement, ça va intensifier le sentiment d'antagonisme. Voilà.
Et puis, il y a aussi ces animaux qui peuvent nous transmettre des maladies, ce sont les fameuses zoonoses.
Voilà, les zoonoses, bon, je dirais qu'on est en situation de TP absolument spectaculaire en ce moment sur les zoonoses, avec le virus qui circule. Donc on a effectivement des peurs, des dégoûts qui vont être liés à ces maladies que les animaux peuvent porter ou transmettre.
Yolaine Delavigne.
Oui. Ben là, je dirais là aussi que c'est souvent, ça sert un peu de prétexte. Hein. Je prendrais
pas toujours.
Voilà, le blaireau qui est un animal où on n'a jamais rien prouvé sur le blaireau. On continue de le chasser de manière absolument dégueulasse en allant dans son terrier, prendre les mères et jeter les blaireaux vivants aux chiens. Enfin, c'est absolument épouvantable ce qui se passe et qui est tout à fait autorisé en France. On est d'ailleurs un des rares pays à chasser le blaireau comme ça. Il n'y a pas une étude scientifique qui prouve que le blaireau a donné une seule maladie aux êtres humains. Donc, il y a aussi une bonne façon. C'est ce que vous parlez de dissonance cognitive, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de prétextes et on est très hypocrite, on est très bons les humains pour être assez hypocrite là-dessus, pour remettre sur le dos des animaux des tas de choses et des tas de trucs un peu pervers et pas tout à fait... Oui. Bon, pour être un peu positif quand même, je trouve quand même que les choses bougent. Et moi, il y a une chose qui m'a frappée dans le livre là que j'ai écrit sur la souffrance animale, c'est que, en fait, le problème de la souffrance animale est très générationnel. Ça m'a vraiment scotché parce que je m'étais pas rendu compte de ça. En fait, vous avez quand même vraiment un barrage de générations, et dès que vous voyez des gens qui adorent la corrida, qui adorent la chasse, etc., je veux pas être méchante, mais ils ont quelques printemps quand même. En général, ils sont pas très très jeunes. Et ça, c'est quand même une chose qui est une bonne nouvelle, c'est que les générations nouvelles, les nouvelles générations, elles supportent plus ce mépris de la différence, avec les humains aussi, d'ailleurs. Et elles aiment de plus en plus les animaux, elles les respectent, elles ne supportent plus la souffrance. Et ça, c'est quand même une nouvelle un peu réconfortante.
10h45, eh bien, il est l'heure de retrouver la chronique « Ma vie de parent, sans transition » de Marie Perarnaud.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Marie Perarnaud, une chronique très servicielle ce matin. Vous allez aider les parents à choisir un animal de compagnie qui leur convienne.
Ben oui, écoutez, parce que nous, on est quand même hyper traquenardables, les parents. Les enfants arrivent avec leurs petits yeux, vous pourrez avoir un petit chat, etc. Donc ben, on dit oui, parce qu'on se dit, ben, on a lu plein de magazines, c'est hyper bon pour leur épanouissement personnel, leur donner des responsabilités, on peut rêver, et pour leur offrir évidemment tout le bonheur que peut apporter ce nouveau membre de la famille. Alors le tout dans le respect de l'animal, bien entendu, on n'est pas là sur un achat de peluche, on en a déjà beaucoup trop, mais plutôt voilà, sur un investissement dans un être vivant qui va nous apporter énormément de choses.
Et vous avez donc eu pas mal d'animaux de compagnie, j'imagine ?
Oui, bah comme j'ai 4 enfants, j'ai eu au moins 4 animaux de compagnie différents. Alors le premier, il faut quand même que je vous raconte un peu ma vie, fut un poisson. Alors comme beaucoup, on l'a gagné à la pêche au canard, douce ironie du sort. Mon fils avait 2 ans, il l'a appelé Gros. Pas Bubule, pas Nemo, il l'a appelé Gros. Alors on était ravis parce qu'on s'est dit, bon bah c'est super, il n'y a pas de griffure, il n'y a pas de balade, il n'y a pas de pipi partout. En revanche, il faut quand même que je vous mette en garde, si vous envisagez d'investir dans du menu fretin, alors le poisson ne vient pas tout seul. Non, il vient chez vous avec son aquarium qui sent calcaire, je pense que ça se dit, avec ses cailloux fluo, avec sa grotte miteuse et sa plante qui dépérit. Alors concernant son hygiène de vie, il est évident que le poisson va finir obèse, car l'enfant a du mal à gérer le petit flocon et son aquarium complètement trouble, malodorant, et puis c'est vous qui allez vous le taper évidemment. À nettoyer. Vous n'imaginez pas non plus avoir de grandes conversations avec votre poisson Gros, disparu lors de la canicule de 2009. Malheureusement, ne m'a jamais demandé comment s'était passée ma journée, ne nous a jamais fait la fête et probablement n'a jamais secouru qui que ce soit dans une avalanche.
Quelle fin tragique.
Oui, alors après, on a été évidemment tenté d'adopter plus gros et plus sociable. Un hamster, par exemple, un cochon d'Inde. Alors je dois vous prévenir, le hamster est un drogué de la roue qui couine. D'ailleurs, c'est la seule activité autorisée par la Société des loisirs hamstériens. Et cette roue va... Vraiment, ça va être plutôt la nuit, pratique nocturne. Et alors, le hamster n'aime pas du tout être cajolé par des petites mains boudinées, sous peine de décéder d'une crise cardiaque ou de multiples fractures. Alors là, on va se diriger vers le cochon d'Inde, plus dodu, plus robuste. Il ne peut pas faire de roue car il a une grosse bedaine. Mais il reste tout de même fragile. J'ai à mon actif donc Luna, hamster russe en fugue, derrière les toilettes de l'étage du haut depuis 2014. Et Biscotte, cochon d'Inde de son état, actuellement en convalescence, suite à une opération des calculs rénaux, après une overdose d'endive. Opération au prix d'un week-end en famille à Disneyland, si vous voulez tout savoir.
Alors Marie, merci pour toutes ces anecdotes. Donc si je résume, pas de poisson, non. Pas de rongeur. Alors on fait quoi? On adopte un chat?
Alors le chat, déjà c'est le chat qui vous adopte, ouais, si je peux me permettre. Alors le chaton que vous allez prendre, déjà il est mignon. Les enfants sont ravis, une amie a une portée, hop, vous êtes un petit peu obligé de l'adopter. Nous aussi, on a trouvé que Cousteau était très mignon, avec ses petites têtes, ses petites papas, ses petites gris-griffes, un peu partout, sur les mains, la moquette, les baffles, la tapisserie, un peu de pipi aussi sur la housse de couette ou le canapé, préférentiellement. Mais le chat, c'est quand même sympa, c'est généreux, il vous aime et il le montre. Cousteau, par exemple, nous déposait amoureusement des viscères de souris sur le sol de la cuisine. Nous le découvrions pieds nus au matin avec beaucoup d'émotion.
Et aujourd'hui?
Alors écoutez, au final, depuis peu, nous avons un petit border collie à la maison. Je crois que c'était le bon choix pour notre famille. Il dévore les DM de maths dont la note serait en deçà de 8. Il a permis un rangement radical des mangas qui jonchaient jusqu'alors le sol de mon salon. Et il permet à chacun de garder une activité physique et méditative grâce à ses sorties pipi régulières. Je crois que c'est un combo gagnant chez nous. Mais enfin, sachez-le, et pour conclure, malgré tout, je dirais que chacun de ces animaux, même Gros, même lui, aura permis quelque chose. Que mes enfants retrouvent quelqu'un le soir et quelqu'un d'autre que ses parents insupportables, j'entends. Quelqu'un qui ne juge pas, qui ne pose aucune question sur le « pourquoi tu as 8 en anglais ?» Quelqu'un qui ne gronde pas pour un manteau perdu au périscolaire. Quelqu'un qui ne limite pas le temps d'écran. Quelqu'un qui est d'accord pour jouer, qui écoute sans bâiller et qui console, qui ne regarde pas son téléphone. À l'heure où on essaye de donner énormément à nos enfants, n'oublions pas toutes ces petites choses que seuls les animaux peuvent offrir. De la vie en plus dans la famille. En revanche, là, je dois vous laisser parce que c'est l'heure de ma promenade méditative et étrangement, personne ne veut s'y coller.
Ma vie de parent de Marie Perarnaud à partager sur les réseaux sociaux, à podcaster sur l'appli France Inter. Allez, on continue à explorer nos liens ambivalents face à nos animaux. Ce sera juste après Marie-Flore qui interprète Mal barré à 10h49.
C'est mal barré, ah chérie, je te resserre un café, il est un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. C'est pas compliqué, oh chérie. Peut-être me suis-je emballée. C'est juste lui qui s'emballe, ou moi qui me suis fait des idées, et lui simplement désirait. Mais je sais qu'un jour viendra l'amour, il a juste pris un détour.
Marie-Flore interprétée Mal barré.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et ce matin, nous explorons le lien ambivalent qui nous unit aux animaux en compagnie de Yolaine Delabigne, journaliste, et du professeur en psychologie sociale Laurent Beg-Chankland. Nous recevons beaucoup de messages sur le fait que nous mangions certains animaux et d'autres pas, que nous chérissons plutôt. Comment notre cerveau négocie ça? Comment il apaise cet inconfort cognitif? Quelles sont les grandes stratégies, Laurent Beg, en quelques mots?
La première, évidemment, pour certains, ça va être tout simplement d'arrêter de consommer des produits carnés, c'est-à-dire ressentant une trop grande tension entre l'affection qu'ils ont pour les animaux et conscient du fait que finalement c'est très arbitraire de choisir le cochon plutôt que le chien, et la vache plutôt que le lapin ou le hamster, arrête d'en consommer. Mais aujourd'hui, c'est encore une position qui est, dans la population générale, relativement minoritaire, c'est-à-dire qu'il y a en France à peu près 2% de personnes qui se disent végétariennes. Et même si ces proportions augmentent fortement chez les plus jeunes, ça reste évidemment une stratégie qui est limitée. Ensuite, il y a tout simplement ce que l'industrie permet, c'est-à-dire l'effacement de l'animal. Finalement, si on ne mange pas du bœuf, mais qu'on mange un carré de rhum steak, si l'on consomme effectivement des animaux qui n'en sont plus parce qu'ils ont été transformés, les choses sont apaisées en quelque sorte. On n'est pas conscient. Donc finalement, ne pas regarder ce qu'on fait, on parle parfois de pleine conscience, on peut aussi parler de vide conscience en quelque sorte. Et la vide conscience, ça permet de ne pas être conscient justement de ce qui se passe. Ou bien l'euphémisation, l'anesthésie lexicale, le fait effectivement de ne pas nommer les choses. Voilà. Après, on peut très bien également, pour diminuer la dissonance, se dire que eh bien, nous sommes obligés d'en consommer. Si nous n'en consommons pas, nous allons perdre nos dents et nos cheveux. Mmh. Alors c'est faux, bien sûr, mais on peut le croire. Certains croient encore que sans viande, on n'a pas de fer, on n'a pas de calcium, on n'a pas de protéines, les fameuses protéines. Voilà. Et je crois que là aussi, c'est intéressant de rappeler que les grandes, je dirais, académies scientifiques en diététique, aujourd'hui, nous apprennent que c'est possible. Même si, bien sûr, il faut regarder précisément comment faire. Ça s'improvise pas, ça demande un tout petit peu de curiosité. Ensuite, on peut aussi tout simplement minimiser le fait qu'on en consomme. Lorsque, par exemple, on fait des enquêtes, il apparaît que la plupart des gens beaucoup de personnes se disant végétariennes ne le sont pas en réalité, mais consomment tout de même du boisson. Voilà. Mmh. Et puis, beaucoup de végétariens arrêtent. En fait, des recherches internationales montrent que la plupart des végétariens ne le restent pas. Pourquoi ? Parce que leur environnement n'est pas porteur, parce qu'ils n'ont pas forcément appris à cuisiner correctement. Donc, ce n'est pas aussi simple. C'est possible, bien sûr, mais ce n'est pas si naturel. Et puis, pour finir, on peut bien sûr tout simplement considérer que les animaux n'en sont pas, n'ont pas de capacité cognitive, émotionnelle, on l'a déjà dit. Donc ça fait que finalement, on ne consomme pas des animaux, mais bien des choses.
Hélène Delabine.
Je rajouterais, oui, en effet, la société. C'est-à-dire que pour être végétarien en France, je peux en parler, moi je le sais depuis 35 ans, je me suis battue et au début je me cachais, j'en ai tellement pris plein la figure. Ça a changé maintenant, il y a beaucoup de tolérance par rapport aux végétariens. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire, c'est difficile de manger végétarien quand on va chez des amis ou quand on va au restaurant, ça reste compliqué, quoi.
Laurent Beck, pour terminer, pour bien montrer notre ambivalence face aux animaux, vous avez mené une expérience dans votre laboratoire de Grenoble. Expliquez-nous cette expérience en quelques mots.
Alors, en France, il y a à peu près 2 millions d'animaux par an qui sont utilisés pour la recherche scientifique. Et ce que je voulais faire, c'était d'adapter une expérience classique, l'expérience de 1000 grammes sur la soumission à l'autorité, en remplaçant la victime humaine par une victime animale. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure des personnes ordinaires sont capables de tuer un animal simplement pour un but noble, le but de la science. Voilà. Donc des gens, 750 personnes ont été recrutées par voie de presse, sont venues au laboratoire et devaient administrer progressivement, successivement, 12 doses d'un produit toxique dans un grand aquarium de 3000 litres dans lequel évoluait un poisson, en fait un robot, mais ils ne le savaient pas.
Poisson robot très réaliste.
Tout à fait, très réaliste, de 50 cm.
Voilà. Et les participants ne le savaient pas.
Tout à fait, c'était vraiment à leur insu. Et donc il y avait un faux feedback cardiaque, donc les gens entendaient un cœur de plus en plus erratique et les gens devaient donc effectivement il avait face à eux le poisson, il se cognait contre la vitre, etc. Il devait le tuer pour la science. Et ce que j'ai observé, c'est que 53% des personnes, hommes et femmes, ont tué le poisson. 20% environ refusaient de commencer. Parmi les 20%, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, par exemple. Beaucoup plus de personnes qui refusaient justement la césure entre les animaux et les humains. Beaucoup plus de personnes qui étaient, pro-égalitaires en général. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant de voir qu'encore une fois, cette hiérarchie entre les êtres vivants humains se réfracte sur la hiérarchie humain-animaux.
Quel était le but de cette expérience ?
Alors, le but, c'était justement de montrer que les personnes qui se soumettent à une autorité scientifique ne le font pas de façon aveugle. Contrairement à ce que disait Milgram, qui pensait que les gens devenaient des quasi-robots obéissant aux injonctions de la science, j'ai voulu montrer que finalement, lorsque les gens surmontent leur empathie pour la recherche, ils le font au nom de buts qui sont socialement valorisés. Ils adhèrent à ces buts. Donc, ce ne sont pas des robots, ils sont simplement influencés par des éléments de leur culture.
Et certains participants ont été dérangés par le regard de ce poisson robot mort. Et ça me fait penser à cette phrase de Derrida qui écrivait que l'animal nous regarde et nous sommes nus devant lui.
C'est ça. En fait, dès que l'on regarde dans les yeux les animaux, on a beaucoup de mal à ne pas voir l'étincelle que nous avons également dans les nôtres. Et je crois que justement, la reconnaissance de leur regard est un premier pas vers la reconnaissance de leur personne.
Un très beau regard d'animal à la couverture de votre livre, un chien qui le regarde avec une intensité absolument incroyable.
Merci.
Merci beaucoup à Yolaine Delabigne d'être venue ce matin. Rappelez le titre de votre livre.
Mon année zéro souffrance animale.
Et merci Laurent Beck-Shankland. Face aux animaux, c'est publié chez Odile Jacob. Demain, est-il encore possible de manger bio à un prix raisonnable ?